qu'on va maintenant parler de l'actualité internationale parce qu'elle est dense. Il se passe beaucoup de choses du côté du Proche-Orient. Je vous invite à rejoindre les coulisses. Merci encore d'avoir été avec nous sur ce plateau. Il espère ramener tous les otages dans les jours à venir. C'est la déclaration de Benjamin Netanyahou. Ces dernières heures, le Premier ministre israélien a pris la parole ce soir dans un discours télévisé. Il annonce qu'une délégation se rendra en Égypte pour finaliser les modalités du plan de paix proposé par Donald Trump. Va-t-on vers la fin de la guerre au Proche-Orient ? On va en parler tout de suite. D'abord, écoutez le Premier ministre israélien.
Dans les prochains jours, pendant la fête de Soukhot, nous pourrons annoncer le retour de tous nos otages, vivants ou décédés, en une seule fois. Tandis que les forces de défense resteront profondément implantées dans la bande de Gaza et dans les zones de contrôle.
Et pour en parler, on est avec Thierry Arnaud. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Émilie.
Éditorialiste politique à BFM TV. Le général Vincent Abaretti.
Lieutenant-colonel.
Lieutenant-colonel, oui, pardon. Bon, en plus, je le savais, il y a écrit général sur ma feuille, pardon. Bah, ceci dit, c'était plutôt un compliment. Oui. Historien militaire et docteur en sciences politiques et histoire contemporaine. Merci beaucoup d'être avec nous. Yves Bourdillon, vous êtes bien journaliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international des Échos, en charge du Proche-Orient. Et on est aussi avec Maya Kadra, bonsoir à vous. Vous êtes enseignante et journaliste spécialiste du Moyen-Orient. D'abord, une première réaction peut-être, Thierry Arnaud, sur cette déclaration de Benjamin Netanyahou, qui arrive, malgré tout, 24 heures après l'annonce du Hamas, qui accepte de libérer tous les otages israéliens.
Oui, c'est vrai qu'il a pris son temps, le Premier ministre israélien. Moi, je retiendrai une autre réaction, si vous le permettez, c'est celle que nous a livrée tout à l'heure sur ce plateau l'ambassadeur d'Israël en France, qui nous a dit qu'il était optimiste. Il nous l'a dit très franchement, c'était pas de la langue de bois diplomatique, et c'est vrai qu'il a bon espoir que les choses débouchent relativement rapidement, disait-il. On entendait à l'instant Benjamin Netanyahou évoquer la fête du Soukhot qui démarre lundi et qui dure une semaine. Et de fait, Joshua Zarkal, l'ambassadeur d'Israël, nous disait qu'il pensait que les négociations qui vont démarrer demain au Caire pourraient être bouclées assez rapidement s'agissant de la libération des otages. 2 à 3 jours peut-être, disait-il.
Ça semble vous étonner d'ailleurs.
Oui, parce que c'est une négociation complexe, évidemment, qui nécessite beaucoup de modalités. Il y a d'un côté les otages qui sont encore en vie, il y a de l'autre la nécessité de retrouver les corps des 28 otages qui sont décédés dans les estimations d'Israël, et tout ça va être très compliqué à mettre en place. Mais encore une fois, côté israélien, on est assez clairement optimiste sur la capacité à boucler ces négociations en l'espace de 2 ou 3 jours. Et ensuite, on se donnerait 2 ou 3 jours pour au moins, dans un premier temps, obtenir la libération simultanée, hein, on entendait le Premier ministre le dire à l'instant, des 20 otages qui sont encore en vie. Donc, vraisemblablement, si tout se passe aussi bien qu'on peut l'espérer, d'ici une semaine environ.
Oui, Maya Kadra, est-ce que vous êtes aussi optimiste ? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent et vite ?
Oui. Alors déjà, rationnellement, on peut considérer que le point d'achoppement que forme la détention des otages est plus ou moins résolu. Pourquoi ? Parce que du moment où le Hamas a accepté, c'est que le Hamas a toujours les moyens de libérer ses otages. Il est toujours en communication et en lien avec ceux qui les détiennent, que ce soit des familles ou bien que ce soit des combattants. Et donc ce premier point d'achoppement, il est plus ou moins résolu. D'où l'optimisme de l'ambassadeur israélien sur votre plateau, d'où l'optimisme en plus, d'une manière plus générale, du partenaire arabe qui va accueillir ces négociations, l'Égypte, l'optimisme israélien, l'optimisme aussi américain. Je rappelle que les 2 personnalités américaines qui vont se rendre au Caire pour accompagner ces négociations à partir de demain et pour jouer les rôles des médiateurs, ce n'est pas n'importe lesquels, c'est Steve Witkoff et c'est Jared Kushner en personne. Et donc, s'il n'était pas vraiment sûr de la libération des otages, les Américains n'auraient pas mobilisé autant de moyens diplomatiques et ils n'auraient pas envoyé Steve Witkoff et Jared Kushner. Là où il y a plus de pessimisme, c'est concernant la suite du plan. C'est là où le Hamas a formuler plus de réserves, mais cette suite du plan, de toute façon, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas encore sûre. On n'est pas sûr de l'exécution de tous les points, des 20 points du plan Trump, pour une raison très simple, c'est que les Israéliens imposent une condition très claire, c'est le désarmement du Hamas. Le Hamas, dans sa réponse aux Américains, a complètement occulté ce volet. Et ça sera ça, le prochain point d'achoppement et le point conflictuel un peu dans les prochaines semaines après la libération des otages.
Vincent Arbaretier, c'est vrai que quand on entend Maya Kadra, quand elle dit notamment si finalement le Hamas accepte, c'est parce que c'est fait, qu'ils savent où se situent les otages. Néanmoins, quand on en parlait hier sur ce plateau avec Thierry Arnaud, on disait que c'était pas si simple que ça. Le Hamas n'était pas forcément certain de trouver rapidement les otages pour pouvoir les faire sortir et les remettre à Israël.
En fait, le commandement du Hamas à Gaza, il est quand même abîmé. Hein. Donc, il n'y a pas trop de coordination. Autant les politiques du Hamas sont à l'arrière, hein, et ils sont pas sous les balles, sous les obus. Les autres, ils sont un peu dispersés. Donc, en réalité, certains otages ont été confiés à des familles, hein, parfois d'ailleurs maltraités par des familles, comme en témoigne un livre qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, on parle du Hamas, mais il y a également une partie de la population de Gaza qui a participé au mauvais traitement de ses otages. Donc il va falloir que les récupérer, convaincre les sous-traitants, les familles ou les groupuscules auxquels le Hamas a vendu ses otages, parce que c'est bien comme ça que ça se passe. Hein. Et donc il va falloir les convaincre de leur redonner, et puis aussi les dépouilles, c'est encore une autre chose. Les dépouilles des otages qui malheureusement sont morts. Donc tout ça, ça va être une affaire qui effectivement, comme ça a été souligné, va prendre quelques jours. Hein. C'est pas, même si Gaza est petit, il y a des ruines. En plus, tout s'est fait dans les souterrains. Hein. Le Hamas, c'est pour ça qu'il y a eu des bombardements israéliens ce matin. C'est pour détruire des objectifs, des points forts qui étaient dans les souterrains, et notamment conquérir des emplacements stratégiques. Donc voilà. Tout ça prend du temps.
On part du côté d'Israël pour comprendre comment vivent les habitants depuis ces déclarations, notamment du Premier ministre israélien. On le rappelle, Benjamin Netanyahou, qui dit espérer ramener tous les otages dans les jours à venir. Peut-être, quelle a été la réaction des Israéliens aujourd'hui, Stéphane Amar, vous êtes notre correspondant à Jérusalem.
Écoutez, ici en Israël, il règne un optimisme que j'ai jamais observé depuis le début, depuis ces massacres du 7 octobre. Cette fois-ci, les Israéliens y croient vraiment, sont convaincus dans leur grande majorité que cet échange d'otages contre prisonniers palestiniens aura lieu, que tous les otages, les morts et les vivants, eh bien, rentreront en Israël. Il y a donc un véritable espoir, même si bien sûr on reste prudent. Et il y a aussi bien sûr des dissensions au sein du gouvernement, puisque pour l'extrême droite qui soutient Benjamin Netanyahou, cet accord, oui, est recevable. Ils ont donné leur feu vert, les principaux ministres d'extrême droite, mais il y a une condition indispensable, c'est que le Hamas quitte le pouvoir, que le Hamas soit démantelé, sans quoi, eh bien, ces ministres quitteront le gouvernement.
Merci beaucoup Stéphane Amar depuis Jérusalem. Yves Bourdillon, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on n'a pas encore senti de vent d'optimisme aussi fort depuis le début de ce conflit.
Première fois que l'on semble si proche de la libération des otages, de la fin de la guerre et d'un échange avec des prisonniers palestiniens. Donc il y a une première phase qui semble quasiment acquise, puisque c'est la première fois que le Hamas accepte, s'engage à libérer tous les otages en une seule fois, en deux ou trois jours, alors que jusqu'à présent, c'était toujours par étapes sur plusieurs semaines. Donc, il est légitime d'être optimiste, au moins sur cette phase-là, sur l'arrêt des combats et sur le retrait de l'armée israélienne d'une grande partie du territoire de Gaza. Pour autant, il y a des zones d'ombre dans le plan Trump et effectivement, le Hamas dit qu'il doit encore négocier des détails qui, évidemment, vous devinez bien, ne sont pas du tout des détails, qui sont des éléments très importants, à savoir, il ne s'est pas engagé à se désarmer, il ne s'est pas engagé à abandonner tout rôle politique direct ou indirect et à bénéficier d'une amnistie pour quitter le territoire, pour se réfugier à sans doute au Qatar. Donc le deuxième partie du plan, ça sera beaucoup plus délicat, ça sera l'objet de négociations qui risquent de ne pas pouvoir se résoudre en 2-3 jours. Mais pour autant, peut-être qu'on peut imaginer que la première phase, libération des otages, arrêt des combats, retrait de l'armée israélienne, se déroule normalement. Et ensuite, ça sera beaucoup plus compliqué, notamment parce qu'Israël a obtenu dans le plan de garder une zone tampon, en quelque sorte, dont le Hamas ne veut pas entendre parler. Et le Hamas est d'accord, comme d'ailleurs il le laisse entendre depuis quelques mois, pour un gouvernement de technocrates, comme on dit, qui prendrait la suite, mais évidemment des technocrates qui pourraient être un peu à sa main. Enfin, il exige que le gouvernement de transition ne soit pas international, soit palestinien purement, alors que le plan Trump prévoit plutôt une espèce de parrainage avec, on évoque Tony Blair, on évoque un comité international et des forces d'interposition arabes, égyptiennes, etc. Et là, le Hamas n'a pas donné de réponse. Donc, il y a une interrogation, mais dernier point, tous les pays musulmans approuvent ce plan. Donc le Hamas est seul, c'est-à-dire que s'il fait capoter ce plan, il se brouille avec tous ses soutiens, le Qatar, la Turquie, l'Égypte, tous les pays arabes approuvent ce plan parce que tout le monde veut la fin. Et donc là, la marge de manœuvre du Hamas est vraiment réduite.
Ouais, c'est intéressant ce que vous disiez, Yves Bourdillon, parce que justement, Donald Trump a publié une carte cet après-midi. Vous vouliez nous en parler,
oui,
Thierry Arnaud.
Il a effectivement publié cette carte sur son réseau social, oui. Sur Chaud, pour montrer, dans le sens de ce que disait Yves Bourdillon à l'instant, quelle est la zone de retrait et quelles en sont les délimitations précises. Donc, on voit sur cette carte, on rappelle que la bande de Gaza, c'est une, comme son nom l'indique, une bande qui fait à peu près 40 km de long sur 10 km de large. Et si on distingue cette ligne jaune, on s'aperçoit qu'effectivement, le retrait d'Israël est sur l'essentiel de la bande de Gaza, mais que cette ligne jaune, elle est continue, elle va d'un bout à l'autre de la bande de Gaza. Ça veut dire que d'une certaine manière, Israël conserve le contrôle de la frontière de la bande de Gaza. Ce qui rentre et ce qui sort sera entièrement sous son contrôle. Et par ailleurs, il y a cette zone tampon d'à peu près 1 kilomètre tout autour entre ce qui est aujourd'hui la frontière de la bande de Gaza et l'endroit jusqu'où les forces israéliennes vont se retirer.
Ça, c'est un point sensible.
Ça, c'est un point essentiel parce que ce qu'explique Donald Trump dans le message qu'il publie ce soir, c'est qu'Israël a accepté cette carte, qu'à partir du moment où le Hamas l'accepte également, le cessez-le-feu démarre, et le cessez-le-feu, c'est ce qui permet évidemment d'organiser la libération des otages, parce qu'on peut pas évidemment l'envisager alors que les combats continuent, même si au moment où on se parle, l'instruction a été donnée tout à l'heure par le Premier ministre Netanyahou de passer sur une posture défensive. Ça veut dire que les soldats israéliens qui sont toujours dans la bande de Gaza y restent pour l'instant, qu'ils n'ont pas déposé les armes, mais qu'ils ne mènent plus d'offensive. Ils sont simplement en situation de se défendre si on les attaque. Voilà où on en est en ce moment, mais il va falloir très vite passer, c'est ce que dit Donald Trump, c'est ce que demande le président américain, à cette situation de retrait des forces israéliennes sur cette zone de retrait, sur cette ligne de retrait qui permettra la libération des otages.
Maïa Kadra, peut-être votre réaction également sur cette carte qui a été publiée sur son réseau social par Donald Trump.
Oui, comme l'a dit Thierry, en fait, c'est une carte qui prépare la prochaine étape, la libération des otages, mais qui montre aussi très clairement où seront stationnés les soldats de Tsahal, aussi dans la bande de Gaza. Il n'y aura pas de retrait total. Ils maintiennent une zone tampon, mais exactement comme le scénario qu'on a vu au Liban. Après le cessez-le-feu, il y a une zone tampon de 5 km dans la profondeur du territoire libanais à peu près, et il y a 5 points principaux sur des collines et sur des sommets de montagne aussi au sud du Liban qui sont maintenus jusqu'à aujourd'hui, alors que la guerre s'est complètement plus ou moins arrêtée malgré les bombardements un peu éparpillés sur tout le territoire libanais qui continue, et l'activité du Hezbollah qui continue aussi. Pour la bande de Gaza, c'est à peu près le même scénario qui est prévu par les Américains, c'est de garder certaines positions pour l'armée israélienne tout en les pressant de se retirer de plusieurs positions dans la ville de Gaza. Donc là, c'est ce qui permet de maintenir un certain équilibre sécuritaire et un certain contrôle aussi de de la bande de Gaza nécessaire pour en premier lieu la libération des otages, en second lieu aussi la mise en place vraiment du plan Trump si jamais celui-ci sera mis en place.
Mais donc, Vincent Arbaretti, ça signifierait donc qu'Israël ne retirerait pas totalement ses soldats de la bande de Gaza ?
Dans un premier temps, certainement pas, parce que on part pas comme ça quand on est au contact d'un ennemi qui vous tire dessus depuis un certain temps. On va pas partir l'arme à la bretelle et puis se balader aux arrières. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait une relève par une force d'interposition, mettons la force arabe, la force égyptienne, qui relèveront les Israéliens aux endroits les plus avancés. Ensuite, il y aura une zone tampon. Et cette zone tampon, si vous voulez, ce sera la limite entre l'armée israélienne qui continuera à garder ses frontières, c'est bien normal, en mordant sur le territoire de Gaza, et puis la force intérimaire, ou je sais pas comment l'appeler, celle qui sera sous le contrôle du futur gouvernement, soit international, soit palestinien, mais qui sera constituée essentiellement de l'armée égyptienne. Et ça, c'est une grosse responsabilité. Et le problème pour Israël, c'est d'obtenir que le Hamas soit désarmé. Et ça, si vous voulez, il y a deux façons de désarmer. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a sous-entendu Monsieur Netanyahou dans son dernier discours. C'est soit l'armée israélienne qui va la désarmer. Donc ça, j'appelle ça la manière forte. Voilà, c'est-à-dire que on prend un à un chaque membre du Hamas et on lui fait rendre ses armes. Mm-hmm. Ou alors, de manière un peu plus douce, qui passe par la force d'interposition arabe, c'est obtenir un accord au cas par cas, parce que ce qu'on appelle Hamas, c'est pas une armée régulière, ce sont des groupes de combattants qui obéissent à des chefs qui sont souvent des chefs de clans ou des on l'appelle Voilà. Génériquement le Hamas, mais les bataillons du Hamas ont été de facto dissous. Sous le feu, hein. Et donc il ne reste plus que des groupuscules, mais ces groupuscules peuvent être dangereux.
Mais alors justement, écoutons Benjamin Netanyahou, là aussi, qui s'exprimait sur la poursuite des négociations en Égypte.
J'ai demandé à l'équipe de négociation dirigée par le ministre israélien des Affaires stratégiques de se rendre en Égypte afin de finaliser les détails techniques de la libération de nos prisonniers. Notre intention, ainsi que celle de nos amis américains, est de limiter ces négociations à quelques jours. Et vous avez entendu le président Donald Trump ce soir, il a clairement déclaré que nous ne tolérerons plus aucun retard, aucune manœuvre dilatoire ou évasive de la part du Hamas. Maintenant, dans la deuxième phase, le Hamas sera désarmé et la bande de Gaza démilitarisée. Cela se fera soit par des moyens diplomatiques, conformément au plan de Donald Trump, soit par des moyens militaires, par notre intermédiaire.
Thierry Arnaud, je vous voyais réagir pendant cette déclaration de Benjamin Netanyahou.
Oui, parce qu'on voit bien que autant on peut être très optimiste, ou en tout cas raisonnablement optimiste ce soir sur le processus de libération des otages et de l'échange avec la libération des prisonniers palestiniens côté israélien. On voit bien comment tout ça est en train de se mettre en place. On a des modalités, on a un calendrier, on a des équipes de négociation qui se rencontrent à partir de demain au Caire. Autant pour la suite, on voit que c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce que il y a des exigences du Hamas qui ne sont pas acceptables pour Israël. Il y a des exigences israéliennes qui ne correspondent pas totalement au plan de Donald Trump, puisque le fait de maintenir, par exemple, un contrôle et une présence israélienne dans la bande de Gaza, ce n'est pas ce que dit le plan 20 points de Donald Trump, qui considère qu'à partir du moment où cette force de stabilisation qualifiée de force internationale de stabilisation décrite par le plan Trump, se met en place progressivement. Les forces israéliennes doivent se retirer et donc renoncer à exercer un contrôle depuis l'intérieur de la bande de Gaza. Et puis enfin, dernier point, on a bien entendu, dans ce que l'on vient d'entendre de la part du Premier ministre israélien, une forme de menace, c'est-à-dire ou bien le Hamas de lui-même, dans le cadre de ce processus, accepte rapidement de déposer les armes, ou bien on ira les chercher, en gros, dit-il. C'est-à-dire que les hostilités, les combats reprendront. Et cette menace, cette épée de Damoclès, elle est toujours très présente dans l'esprit et dans les propos du Premier ministre israélien.
Peut-être que Donald Trump crie victoire un peu trop tôt, en quelque sorte.
Lui considère qu'à partir du moment où on engage ce processus, on a la libération des otages, l'échange des prisonniers, que Israël se déplace sur cette ligne de retrait, on amorce un engrenage vertueux qui aboutit à une paix plus durable. Évidemment. Mais on voit bien que la première partie, l'équation semble assez claire. Dans ses paramètres et son calendrier, la suite, beaucoup plus compliquée, oui, beaucoup plus aléatoire.
Tous les regards seront tournés vers l'Égypte ces prochaines heures. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler.